j'aurais adoré qu'on me dise « Cynthia, vous avez un cancer du sein ». Non, on m'a envoyé un email.
Non. En solidarité à Octobre Rose, je souhaitais débuter ce mois sur InPower en donnant la parole à une femme qui a traversé un cancer du sein.
Ta vie bascule complètement.
Je transpire rien. J'étais perdue. Je ne savais pas quoi faire en fait, parce que c'est dans les yeux de l'autre que tu vois que t'es malade.
Est-ce qu'il y a une Cynthia avant la maladie et une Cynthia après la maladie ?
Cynthia K avait une vie à 100 à l'heure. Elle passait son temps aux quatre coins du monde à organiser des événements pour les plus grandes marques de luxe. Jusqu'au jour où, en 2016, elle remarque une anomalie sur son sein droit.
Sous la douche, autopalpation, et là je sens un truc tout de suite sous l'aisselle. Je sais tout de suite que ça devrait pas être là. T'as une dissociation avec ton corps qui arrive. Un sentiment d'injustice en fait, où on se dit, pourquoi moi ? Pourquoi tu me fais ça en fait ?
Le diagnostic tombe. À 30 ans, Cynthia est atteinte d'un cancer du sein. S'ensuit un combat à la fois physique, mais aussi psychologique, pour vaincre la maladie et surtout apprendre à se reconstruire après.
Bon, ça va mieux dans la tête, mais j'ai quand même envie de me suicider tous les matins. Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on arrête. Ok, on vit qu'une fois, vas-y, je vais faire du McDo tous les jours. Si elle tombe malade, quand elle tombera malade ? Là, ça va être beaucoup plus compliqué de prendre en charge sa santé. Déjà, j'ai qu'un sein, donc...
Le reste, on s'en fout.
Juste avant que l'épisode commence, j'aimerais faire un gros big up à tous les fidèles auditeurs d'InPower, à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de s'abonner au podcast, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Cynthia K.
Je suis très contente de faire cet épisode avec toi. On s'est rencontrés il y a un an. On avait fait un post ensemble pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein.
Tout à fait.
Donc en plus, voilà, vu qu'on est en plein mois d'Octobre Rose, je suis contente qu'on ouvre un peu ce mois avec ton témoignage, avec ton parcours. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ?
Tout à fait. Alors, je suis Cynthia, je suis auteure, experte en prévention et santé naturelle et j'ai une chaîne Instagram qui s'appelle BanCynthiaK sur laquelle je fais de la prévention autour du cancer du sein, parce que j'ai eu un cancer du sein très jeune, mais aussi autour de la santé et des perturbateurs endocriniens.
Alors, on va parler de ça, on va parler de cette expérience, cette maladie que tu as vécue, mais j'ai envie déjà de savoir... Est-ce qu'il y a une Cynthia avant la maladie et une Cynthia après la maladie ?
Ah ouais, il y a une vraie Cynthia avant la maladie. Déjà, Cynthia, elle a été diagnostiquée à 30 ans. Elle vivait à Paris. Elle travaillait dans l'événementiel, dans les plus grosses boîtes de mode de France. Et elle était dans la fleur de l'âge et dans la vie parisienne. Donc, j'étais vraiment à 100 000 à l'heure dans la mode. J'ai habité aussi à Londres, en Hollande. J'ai travaillé chez Netflix. Donc, j'ai fait pas mal de choses avant. Et après la maladie, je n'ai pas envie de dire que c'est une Cynthia différente, mais c'est une Cynthia qui prend un peu plus son temps. Donc, avant, j'étais quand même très à 100 à l'heure. Vraiment, sans mentir, j'étais vraiment à 100 à l'heure. Je courais partout, j'étais dans tous les avions, j'étais sur tous les défilés, j'étais dans toutes les soirées. Et le cancer m'a fait ralentir un petit peu quand même.
Mais j'imagine, en fait, c'est vrai que ce que tu nous dis, c'est horrible à tout âge, le cancer. Mais bon, c'est vrai qu'à 30 ans, c'est très, très loin de, normalement, tes préoccupations, de ce que tu penses, en fait, de ce qui potentiellement va t'arriver dans ta vie. Tu peux nous raconter le jour où on te dit... voilà, Cynthia, vous avez un cancer du sein ?
C'est une très bonne question, parce que j'aurais adoré qu'on me dise « Cynthia, vous avez un cancer du sein ». Non, on m'a envoyé un email.
Non.
Ouais. Donc le gynécologue m'a envoyé un email pour me dire, le lundi d'abord, il me dit « c'est bon, tous les résultats sont négatifs, il n'y a pas à s'inquiéter ». Et moi, très naïvement, mais je ne sais pas pourquoi, je demande « sein gauche, sein droit, tout va bien ». Et le lendemain, il me renvoie un email en disant « Non, j'avais pas ouvert tous mes courriers, il faut que vous veniez très vite dans mon bureau pour qu'on commence une prise en charge. » Et donc, ça a été mon premier truc. Donc, à 30 ans, 31 ans, tu comprends pas trop ce qu'on te dit. À travers ces mots, j'avais compris que c'était un cancer, très rapidement. Et du coup, le lendemain, je suis arrivée dans son bureau et avec une amie. Et là, il me dit en vraiment 2 minutes 30... c'est un cancer du sein, grade 2, donc il faut que vous fassiez les examens, il faut que vous commenciez une prise en charge, bon courage. Et en 2 minutes, j'étais dans la rue et je ne savais pas du tout quoi faire.
Et déjà, le fait que tu te sois allé, que tu allais faire ce dépistage, tu avais remarqué une anomalie dans ton sein, parce que
ouais.
Tu vois, on nous dit toutes, il faut se palper, on commence, il y a quand même de plus en plus de sensibilisation. On est combien à vraiment le faire entre 25 et 35 ans, tu vois ? Je pense qu'on n'est pas beaucoup.
Vous êtes très peu à le faire. Moi, je le fais depuis que j'ai 16 ans.
Ouais,
parce que j'ai une des meilleures amies de ma mère qui est décédée. On n'avait aucun lien de parenté, mais vraiment une tata qui était très proche. Et ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu la femme trop belle, working woman, avec malheureusement toute la maladie, c'était...
descente aux enfers, quoi.
Voilà, ouais. Descente aux enfers, début des années 90, les traitements sont pas ce qu'ils étaient aujourd'hui, c'était très très difficile. Et du coup, je pense que j'ai pris ce réflexe d'autopalpation quand j'étais très jeune, donc je l'ai toujours fait automatiquement, devant une petite série, sous la douche, sans jamais m'en rendre compte. Et là, c'était un 15 août 2016, et sous la douche, autopalpation, et là, je sens un truc tout de suite sous l'aisselle. Je sais tout de suite que ça devrait pas être là. Et je retouche, je me dis non, c'est bizarre. Et deux jours après, j'étais déjà chez le gynéco. Et malheureusement, à nos âges, on doit pousser. Donc j'ai poussé, j'ai dit si, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne voulait pas le faire, ce qui est très commun. Il ne voulait pas faire d'échographie, il ne voulait pas faire d'examen supplémentaire parce que j'avais aucun antécédent familial. Et la génétique aujourd'hui, c'est que 10% des cancers du sein. Donc c'est plus du tout un sujet. Hein.
Ce qui veut dire... que 90% des cancers du sein sont liés à des facteurs environnementaux ?
80% environnementaux, et après, tu as la génétique plus, où tu as d'autres choses qui rentrent dedans, mais 80%, c'est environnemental.
Donc 80%, on peut influer dessus.
Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que sur mon compte Insta, j'insiste sur l'hygiène de vie qui est hyper importante, parce que moi, du coup, en découvrant, en tombant dans ce monde de cancer, j'ai découvert des choses que je ne savais pas du tout. Et c'est ce qui m'a poussé à me dire, il y a des choses à faire, et donc... Je pousse le docteur en disant non, il faut que vous m'autopalpiez, je connais mes seins en fait, c'est ça l'important, je connais mes seins, vous ne connaissez pas mes seins autant que je suis avec mes seins depuis petite, toute ma vie, je sais qu'il y a un truc de bizarre, et en plus de ça j'avais eu un grain de beauté 2 mois avant et j'avais pas forcément fait le rapprochement, mais c'est aussi un des symptômes d'un cancer du sein, il était apparu comme ça, donc moi je me suis dit waouh, un nouveau grain de beauté sur le sein, c'est top. Ça va être l'été et tout. En fait, pas du tout, c'était un des signes. Et j'avais eu aussi un peu d'eczéma, pareil, un des signes. Je ne le savais pas du tout à l'époque. Et après, quand il a fait l'échographie, il a vu tout de suite qu'en effet, c'était une microcalcification, comme ça s'appelle. Et là, j'ai les examens en plus. Et à l'époque, c'était 1 mois. C'est un petit peu moins long aujourd'hui, mais c'était 1 mois. Et au bout d'un mois, j'ai eu les résultats et cancer du sein.
Donc, en l'espace d'un mois, c'est-à-dire entre le 15 août 2016 et le 15 septembre 2016, ta vie bascule complètement.
Là pour le moment j'étais douteuse, tu vois, je continuais ma vie en fait, je me suis dit bon il y a quelque chose mais je sais pas si ça va être positif, bon il faut quand même que je continue ma vie, voilà, comme si de rien n'était, j'en avais parlé à ma sœur, j'en avais parlé à ma meilleure amie, à un autre ami, mais voilà tout le monde était serein, non t'inquiète pas c'est rien. Et il y a quand même le doute dans ta tête. Et il y a des classifications qui font que moi, je suis dans la classification plus, où tu as juste 10% de chance que ce ne soit pas un cancer. Donc, bon, j'étais déjà là, ok. Et après, ouais, quand j'ai eu le résultat définitif, là, tu te dis, ta vie s'arrête, je suis célibataire. Clairement, voilà, je ne pense plus à rien.
Qu'est-ce qui change ? Est-ce que tu peux nous dire concrètement, tu vois, le jour où le verdict tombe, le lendemain ? Qu'est-ce que tu te dis ? En fait, je me dis, ça doit être un tel raz-de-marée de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Est-ce que tu quittes ton travail ? Est-ce que tu arrives à avoir l'accompagnement que tu attendais ? Enfin, comment ça se passe les premiers jours ?
Alors, les premiers jours étaient très difficiles parce que comme ce docteur ne m'avait pas du tout indiqué ce que je devais faire, j'étais perdue. Je ne savais pas quoi faire, en fait. Moi, ce qui m'a aidée, c'est que j'avais beaucoup de famille et d'amis qui étaient dans le corps médical, qui m'ont dit, il faut que tu prennes rendez-vous à tels endroits, mais je ne savais pas du tout quoi faire. Et normalement, aujourd'hui, je le sais, c'est le docteur qui prend les premiers rendez-vous ou qui t'indique où aller, tout simplement.
Mais comment tu l'expliques, ça ?
Moi, manque d'empathie. Vraiment, manque d'empathie. Et quelqu'un qui ne devrait juste pas être gynécologue. Je sais qu'il exerce encore aujourd'hui, malheureusement. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui ne devrait juste pas être
gynécologue. C'est chaud, parce que ouais, là, on parle vraiment de...
Ah oui. Quand je vais sur Google, les reviews, c'est vraiment que du négatif. Et je ne comprends pas, en fait... que quelqu'un exerce et donne des diagnostics de cancer du sein, alors que normalement, c'est entouré avec un psychologue, une infirmière. Donc voilà, c'est vraiment un protocole qui est encadré en France par la loi, qui n'a pas du tout été respecté. Et moi, du coup, vraiment ce trou noir. Et en fait, cette annonce assez violente et brutale m'a mis tout de suite, moi, dans une crainte du milieu médical. Ce qui est déjà compliqué quand t'as quelque chose, tu sais pas, c'est compliqué. Alors là, quand t'y vas vraiment avec le doute et la peur au ventre, tu dis, c'est un peu chaud. Et les jours d'après, heureusement que j'avais mon entourage qui était formidable et qui m'a soutenu dès le début et qui n'a jamais défailli, en fait, n'a jamais failli à qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, comment on peut t'aider, prise de rendez-vous, donne-moi ta carte vitale, des choses comme ça. Et c'est vraiment eux qui m'ont accompagnée dès les premiers jours. Et c'est pour ça que je dis l'entourage, c'est 50% de la réussite, en tout cas de la bataille d'un cancer du sein. Et moi, c'est eux qui m'ont vraiment permis d'avancer très rapidement dans mon parcours de soins. Parce que sinon, au début, en fait, on ne sait rien, c'est nouveau. C'est comme si, c'est comme si tu naissais demain, qu'on te dit bah, marche et puis va à la sécu.
S'il vous plaît, laissez-moi un peu de temps.
Ça va être compliqué, donc on se retrouve vraiment dans un monde, c'est particulier, on arrive vraiment dans un nouveau monde.
Et tu fais face à quel sentiment ?
Alors moi, je suis quelqu'un qui suis très proactive, donc tout de suite, pragmatisme, allez, on va de l'avant, on va comprendre ce qui se passe, tu vois, tous les cancers du sein hormonodépendants de grade 2, stade 2, tout de suite, tu vas sur Internet ou tu demandes à tes amis, donc ça, c'était moi. Mais en même temps, j'avais quand même dans la tête un sentiment d'injustice envers mon corps, déjà. Parce que même si j'ai travaillé dans la mode, je sortais, je faisais quand même attention à moi, je mangeais bien, je dormais quand même assez, bon, je buvais de l'alcool, mais voilà, j'avais quand même une vie relativement saine et je faisais du sport tous les jours. J'étais vraiment la nana. Ah, tu connais ce nouveau jus vert, mais t'as entendu parler de Goop ? Enfin, vraiment le truc hyper bien. Et quand je suis tombée malade, tout le monde me disait, mais c'est fou quoi, Cynthia quoi. Et il y a vraiment zéro cancer dans ma famille, donc je me demandais, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, très vite, on commence à te parler de mastectomie, on commence à te parler de chimiothérapie, donc tout de suite, tu fais la relation avec tes cheveux, tu commences à te dire, mais attends, qu'est-ce que je t'ai fait, quoi ? Mon corps, j'ai relativement bien pris soin de toi, on s'est toujours bien entendu. Et là, en fait, t'as une dissociation avec ton corps qui arrive, où d'un côté, t'es un petit peu comme un cobaye du système médical où tu te dis, bah, t'as un rendez-vous là, donc tu vas, tu fais les trucs. Et de l'autre côté, je pouvais me toucher. Enfin, il y avait zéro sensation, en fait. C'était vraiment... c'était un corps et on me soigne. Et puis, dans la tête, en fait, il n'y avait plus du tout de rapprochement. Et en fait, c'est un travail qui est très, très long à faire et qui est très commun parmi les personnes qui ont eu des cancers du sein.
Parce qu'il y avait une forme de rejet de ton corps, c'est ça ? Il y avait une forme de... Bah, en fait, tu m'as trahi.
Complètement. C'est une trahison et sentiment d'injustice, en fait, où on se dit, bah, pourquoi moi ? Pourquoi... Bah pourquoi tu me fais ça, en fait, quand j'ai relativement bien pris soin de toi et là, tout d'un coup, un cancer du sein assez jeune, on ne sait plus quoi faire, on se retrouve dans des situations où, en effet, on est toute la journée devant un corps médical qui nous ausculte et on n'a pas forcément envie de se retrouver devant 6-7 médecins. Enfin, moi, je dis 6-7 parce que ça m'est arrivé un jour où c'était 7 hommes devant moi, dont 4 stagiaires qui arrivent d'un coup et qui me regardent poitrine mastectomée. Et du coup, tu te sens vraiment mal, en fait. Tu as une dissociation qui se fait entre ton corps physique, ton corps mental, et tu as juste plus envie d'être là et de ressentir. Et du coup, moi, je me regardais vraiment en me disant pourquoi tu m'as fait ça, et j'ai vraiment bien pris soin de toi. Et c'est un sentiment qui est commun parmi énormément de femmes que j'ai interviewées et qui demande un travail de réappropriation très 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 profond qui vient souvent après dans l'après-cancer.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir à ne pas se couper de son corps pendant ?
C'est une très bonne question. Je pense qu'on peut réussir pendant, mais si on réussit pendant, je pense que ça viendra après. Je pense qu'il y aura un moment, de toute façon, où il y aura une dissociation avec le corps qui va se faire. Moi, elle s'est faite assez rapidement, parce qu'encore une fois, je suis très pragmatique, donc j'ai dit, ça va être ma vie pendant un an, les médecins, la nudité. Et elle a continué après, dans la réappropriation, mais je pense que même si on essaye de se dire, c'est quand même mon corps, je travaille avec lui, au bout d'un moment... C'est comme un deuil, en fait, et j'en parle dans le livre, c'est vraiment les étapes du deuil. On est dans le rejet, on est dans l'acceptation, on est dans la négociation, et on fait toutes ces étapes-là pour, au bout d'un moment, arriver dans l'acceptation, en fait, de ça a été ça, mais ça va passer par un rejet au bout d'un moment.
Il y a quelque chose qui m'interpelle quand tu nous partages ce sentiment d'injustice, et notamment quand tu dis « mais en fait, j'ai pris soin de mon corps, je comprends pas ». Quel est aujourd'hui ton rapport à ça ? Parce que d'entendre ce type de témoignage, personnellement, ça me conforte dans l'idée de pas trop se prendre la tête, en fait, sur justement les derniers jus verts, sur, tu vois, la séance de, enfin, les 5 ou 6 séances de sport par semaine, et de me dire, en fait, dans tous les cas, il peut nous arriver, malheureusement, n'importe quoi demain. Donc, je préfère ne pas me priver. Ouais. Et oui, je bois, et oui, je mange gras parfois, et le but, c'est pas d'en faire un excès, évidemment. Tu vois, je pense qu'en fait, on peut être partagé dans le fait de se dire, ok, bon, il m'est arrivé ça, et alors maintenant, du coup, je vais faire tout mon possible pour être parfaite et mettre toutes les chances de mon côté, mm-hmm. ce que j'entends aussi. Et puis d'un autre côté, on peut se dire, ben, du coup, YOLO, parce que même si on fait tout parfaitement, ça n'empêchera pas le fait qu'un jour, c'est pas que notre corps puisse se retourner contre nous, mais en tout cas, qu'il décide quelque chose dont on n'est pas responsable.
Ouais, c'est une très bonne remarque, et beaucoup de personnes se font cette remarque. Moi, je mets de l'eau dans mon vin parce que je me dis, la façon dont je prenais soin de mon corps m'a permis de bien répondre au traitement. Et du coup, d'avoir un système immunitaire qui était quand même assez fort pour ne pas douiller pendant les chimios, parce que moi, je travaillais pendant mes chimiothérapies. Donc, je faisais ma chimio le vendredi. Le lundi, tu me voyais au travail comme si de rien n'était. Et j'avais pas autant d'effets secondaires que ça. Si je te disais pas que j'avais le cancer, parce que je mettais des foulards avant de tomber malade, t'aurais pas pu savoir, en fait. Si je te le disais pas, tu savais pas que j'étais malade. Et du coup, je pense que le fait que je prenais soin de mon corps avant a permis que je puisse soit gérer la douleur, soit gérer les effets secondaires, soit continuer à bien m'alimenter, à savoir quoi manger aussi, parce que c'est hyper important. Et du coup, ne pas forcément trop être perdu, parce qu'une personne qui va se dire, bon bah, ok, on vit qu'une fois, vas-y, je vais faire du McDo tous les jours. Si elle tombe malade, quand elle tombera malade? Là, ça va être beaucoup plus compliqué de prendre en charge sa santé. Et c'est ce que je dis aux gens. On ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Il peut tout se passer. Mais la façon dont votre corps va réagir aux médicaments, parce que c'est des choses très, très, très fortes qu'on nous donne, là, c'est là que vous allez voir. Et moi, les docteurs me disaient, en l'occurrence, que j'avais comme un petit cancer et qu'on avait l'impression que j'étais au Club Med.
Attends, pourquoi ils t'ont dit ça? Quel est le rapport?
J'étais là, parce qu'en fait, ils me disaient, vous avez l'air tellement bien, ouais. Vous n'êtes pas fatigué, vous avez plein d'énergie. Je dis, mais je ne suis pas au Club Med, en fait, je vomis le samedi, mais par contre, le dimanche, ouais. Ben voilà, je mange les trucs qu'il faut bien manger, je sais quoi faire, je fais ma méditation, je fais mon yoga, je fais de l'acupuncture, je fais les traitements durs, je fais la médecine douce à côté, je sais quoi faire, je prends soin de moi, et c'est pour ça que j'y arrive relativement bien. Et moi, c'est ça que je veux pour tout le monde, en fait. Sauf que ça, c'est des choses qu'on ne nous dit pas. Quand on tombe malade, on vous dit, bah, vous avez la chimiothérapie, et surtout, mangez bien pendant la chimio, faites un gros repas. Et si tu fais un gros repas, mais tu vas te retrouver aux toilettes tout le week-end, en fait. Et il y a des choses, en fait, qu'on ne nous dit pas, que moi, j'ai appris petit à petit, de par ce que je connaissais déjà avant, et quand je suis tombée dans le trou noir, parce que bah, t'as rien à faire quand t'es en arrêt maladie au début, j'ai fait mes recherches, et là, je me suis dit, ok, je suis tombée malade, mais les réflexes que j'avais avant dans mes petits rituels bien-être sont quand même valables aujourd'hui et peuvent m'aider à me remettre sur pied, et notamment grâce à la méditation qui m'a énormément aidée pour gérer la douleur pendant les mastectomies, à la respiration, ou juste marcher un petit peu tous les jours. Quoi.
Quand est-ce que du coup, t'as été en arrêt maladie?
J'étais en arrêt maladie le jour de mon diagnostic. Le jour où je suis allée chez le gynéco, je me suis mise en arrêt maladie.
Ok, parce que tu nous disais que tu faisais les chimios le vendredi, lundi, tes autres travail.
Ouais, parce qu'en fait, dans mon parcours de soins, j'ai d'abord commencé par la chirurgie, la conservation des ovocytes, et ensuite, je suis partie en chimiothérapie.
D'accord.
Ouais, parce que j'avais un cancer qui était localisé dans mon sein, donc je savais que j'allais perdre mon sein de toute façon. Donc ils préféraient, moi, dans mon cas, et souvent dans ces cas-là, c'est commencer la chirurgie, donc tu fais ta mastectomie en premier, et comme bah, pour une mastectomie, il y aura toujours un arrêt maladie, je me suis dit, bon, j'ai besoin d'encaisser quand même, je vais être fatiguée physiquement. Je me suis mise en arrêt maladie pendant 3 mois et demi, le temps de faire la chirurgie et la préservation des ovocytes parce que j'ai pas eu d'enfant. Et quand on a un cancer du sein ou qu'on va faire de la chimiothérapie en tout cas, on propose de conserver les ovocytes pour plus tard. Donc j'ai fait ça et après j'ai commencé la chimiothérapie. Et après ma première chimio, je me suis dit bon, je retourne travailler et je suis retournée travailler.
Comment a évolué ton rapport à la féminité dans cette période? Ça fait beaucoup, tu vois, perdre un sein, qu'on te dise, tu me le disais en commençant, oh bah, de toute façon, limite, tu pouvais dire au revoir à la maternité parce que tu es sous hormones pendant une dizaine d'années. Comment tu vis cette féminité qui, finalement, ne ressemble pas à celle qui est valorisée par la société?
Très bon point, c'est quelque chose que j'aborde parce qu'il faut savoir que moi, je me suis fait reconstruire tout de suite, j'ai une reconstruction immédiate quand on m'a enlevé mon sein dans ma mastectomie. Et aujourd'hui, les reconstructions immédiates, c'est des choses qui sont pratiquement systématiquement proposées aux jeunes femmes. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que quand on te reconstruit immédiatement, bah, moi, en tout cas, j'ai eu un sein qui a été enlevé, donc mastectomie unilatérale. Je suis née, j'ai grandi, j'ai eu un bonnet D toute ma vie. Là, on me met un bonnet CD de l'autre côté qui lui tient bien, mais le côté gauche qui n'est, on ne touche pas du tout au côté gauche, là on a un sein qui pend. Et là quand on se voit tout de suite dans le miroir, on se dit attends, j'ai un sein qui pend et l'autre qui est comme ça, déjà le cerveau il comprend pas ce qui se passe. Physiquement tu comprends pas, et en plus, même si on te remet un sein tout de suite et que tu as l'impression qu'on t'enlève un sein pour te remettre un sein, tu n'as plus de sensation dans ce sein. T'as plus de sensation, tu peux plus allaiter puisqu'on t'enlève tous les canaux lactifères. Et là, tu dis, ah ouais, il y a quelque chose. Et en plus, ça tire parce qu'on t'enlève aussi tous les ganglions que t'as sous les selles, dans mon cas en tout cas. Et ça devient, ça commence petit à petit, tu vois, tu commences à enregistrer. Et moi, malheureusement, en plus, j'ai le lourd malheur d'avoir la radiothérapie sur ma prothèse, ce qui n'est pas une chose qui devrait être faite, mais malheureusement qui est toujours fait. Et ma prothèse n'a pas tenu, donc mon sein s'est ouvert. La prothèse est tombée. Et du coup, on m'a enlevé ma prothèse et j'ai eu un sein pendant 1 an et demi. Donc j'étais à plat complètement du côté droit. Donc là, la féminité, encore une fois, ben, ça ouais. prend un coup. Tu te regardes un petit peu. Tu es dissocié, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ton corps. Tu te regardes complètement différemment. Moi, j'étais célibataire aussi à l'époque. Donc là, je me souviens avoir eu cette conversation avec ma mère où elle me dit « Oh, mais de toute façon, si un gars ne veut pas être avec toi, c'est tant pis, c'est sa perte. » Toi, dans ta tête, tu te dis « Mais t'es mignonne, super, t'as déjà fait 4 enfants, ouais. t'as vécu ta vie. Moi, je commence à peine et tout. » C'est pas juste, en fait, tu vois, pourquoi ça m'arrive. Donc, ouais, j'aimerais bien juste ouais. vivre normalement.
Et t'avais l'impression que c'était un frein. Tu te disais « J'arriverai jamais à trouver quelqu'un avec un sein ?»
Au début, je me le suis dit. Au début, je me suis vraiment dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc qui peut vouloir quelqu'un comme ça ?» Et en fait, il y a quelque chose de très bizarre qui s'est passé quand j'ai eu ce retrait de prothèse qui a été fait. J'avais ma prothèse depuis 6 mois et quand elle a lâché, ben voilà, plus de sein pendant 1 an et demi. Au début, je me suis dit « Oh là là, ça va être horrible !» Et en fait, pas du tout. Je dis dans le livre que j'ai jamais eu une carrière Tinder aussi réussie que quand j'en avais qu'un sein. Et pratiquement toutes les femmes que j'ai interrogées ont dit la même chose.
Mais comment tu l'expliques ?
Bah, en fait, moi, je l'explique à ma façon, c'est-à-dire que je me dis que c'est tellement... T'es tellement libérée de ces injonctions du regard de toi, de « putain, j'ai de la cellulite, putain, je suis grosse, putain, j'ai trop mangé, putain, il va pas... » Qu'en fait, tu dis « bah, déjà, j'ai qu'un sein, donc... »
Le reste, on s'en fout.
Exactement. On s'en fout, et du coup, en fait, t'as ce truc libérateur, t'as ce voile libérateur. Tu dis « bah, en fait, si le gars, il t'aime pas, bah, en fait, ma mère, elle avait raison.
Ouais.
On base et on passe à autre chose. » Et en fait... On passait à autre chose et c'était tout. Et du coup, bah, j'explique comment annoncer à son date qu'on n'a qu'un sein. Bah, en fait, c'est vraiment un rapport avec toi-même. Et tu le vois très vite si la personne a envie de continuer la conversation ou pas. Et la réalité, c'est que ça ne te gêne pas, en fait. Moi, en tout cas, ça ne me gênait pas. La plupart des femmes à qui j'ai parlé, ça ne les gênait pas aussi de dire « bon, bah, on s'arrête là ». Et puis si on continue, bah, tant mieux, en fait. Mais vraiment, ça t'enlève un voile, en fait, où les, je peux en dire les frivolités, parce que c'est quand même
Des complexes
hein. qui sont valables, hein, qu'on nous a mis depuis qu'on est petite, donc voilà, c'est valable, mais en tout cas qui sont moins présents, et du coup on se sent un petit peu plus libéré, en tout cas, j'ai pas envie de dire pour tout le monde parce que c'est pas vrai, chacun a son chemin, mais plus libéré, et ça m'a même fait questionner sur le fait de, est-ce que j'ai envie de me faire reconstruire ou pas, parce qu'au début c'était toujours je vais me faire reconstruire, et quand j'ai eu que ce sein là pendant 1 an et demi, j'étais tellement bien, en fait, que je me suis dit, est-ce que je me fais reconstruire ? Il faut savoir que seulement 30% des femmes se font reconstruire. On pense que c'est toutes les femmes, pas du tout, c'est 30% des femmes qui se font reconstruire parce qu'il n'y a pas l'envie, parce qu'il y a la peur, parce qu'on est juste bien, en fait, comme ça. Et c'est des questions que je soulève parce que c'est important. La société nous dit, bah, en fait, t'es pas femme si t'as pas 2 seins. C'est pas vrai.
Non.
En fait, c'est pas du tout vrai. Les seins ne représentent ouais. pas la féminité. La maternité, c'est un autre sujet. La féminité, c'est différent. Et tu peux très bien te sentir femme. Et moi, la seule raison pour laquelle je me suis fait reconstruire, c'était un besoin de symétrie. J'avais juste besoin de symétrie. Et il n'y avait pas de sous-vêtements à l'époque d'un côté, en fait. Maintenant, ça existe. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, c'était très inconvénient. Donc, je me suis dit, bon, autant de me faire reconstruire.
Mais d'où l'importance des rôles modèles, tu vois. Je pense à Angelina Jolie qui s'est fait retirer les 2 seins.
Exactement.
Moi, d'avoir vu ces clichés d'elle sans ses 2 seins... et qui est tout aussi belle, en fait, et rayonnante, je me dis peut-être que ça participera à faire évoluer l'image de la féminité qui, aujourd'hui, a encore l'imaginaire de la grosse poitrine, qui, avec des seins qui, comme par magie, tiennent extrêmement bien tout seul. Donc, par les images, je pense qu'on peut faire pas mal de choses et changer les imaginaires. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir aussi, ces facteurs environnementaux dont tu parles. Mm-hmm. C'est qu'est-ce qu'on doit savoir principalement pour minimiser les chances d'avoir un cancer du sein ou de favoriser l'arrivée d'un cancer du sein.
Alors, un cancer du sein ou tout cancer d'ailleurs, en l'occurrence, il y a trois choses qui augmentent les risques d'avoir un cancer du sein. C'est l'alcool, la première.
Oh putain, là j'ai les boules là.
J'aurais pas dû commencer
par
ça. Mais...
Même le champagne, ça compte.
Ouais, tous les alcools se valent malheureusement. Ah, l'éthanol se transforme de la même façon dans le corps. Et même un verre par jour pour les femmes, surtout pour les femmes. Pour les hommes, c'est différent. Pour les femmes, c'est même un verre par jour peut augmenter les risques d'avoir un cancer du sein. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Et ça augmente les risques de 10%. Donc, c'est quand même énorme. Ouais. Après, si on mange des légumes verts, ça peut le réduire aussi. Donc, je dis à tout le monde, mangez des légumes verts si vous voulez boire de l'alcool. Okay. C'est la viande rouge à outrance et les produits transformés.
Okay.
Ça, c'est sûr et certain, avec tout ce qui va être charcuterie, qui n'est vraiment pas bon pour la santé et pour nous. Mmh. Et ensuite, tu as tout ce qui va être vraiment perturbateur endocrinien, donc environnement, pesticides, pollution, qui vont aussi pour les femmes augmenter les risques de cancer du sein. Et quand on parle de cancer hormonaux, ça veut dire que tu as tes cellules du corps qui vont augmenter en tout cas le risque de cancer du sein et en fait qui vont s'allumer comme un petit sapin de Noël à l'afflux d'hormones qui viennent de l'extérieur. Donc quand on parle de plastique, par exemple, de ne pas boire dans une bouteille en plastique parce que tu as des nanoparticules de plastique, c'est ce que ça fait en fait. Quand le plastique va rentrer dans ton corps, il peut potentiellement aller chercher ces petites cellules cancéreuses qui ne sont pas encore allumées, mais il va les allumer. Quand on parle, par exemple, de faire attention au maquillage et que ce qu'on met sur la peau, pareil, ça va être des choses comme ça. Après, il faut prendre avec des pincettes. Moi, je dis toujours, commençons par l'intérieur du corps avant d'aller à l'extérieur du corps. Donc, je dis toujours, tout bêtement, filtrez votre eau. Ne faites pas chauffer des choses dans des contenants en plastique, parce que ça, voilà, c'est le truc qui va complètement augmenter vos risques de cancer du sein et de perturbateurs endocriniens. Et d'ailleurs, quand on parle de cancer du sein, on parle aussi de cancer de l'utérus, de cancer des ovaires, donc tout ce qui va être gynécologique et ce qui est lié aux hormones, malheureusement. Et tout ce qui va être décoloration de cheveux, toutes ces choses-là sont des perturbateurs endocriniens. Donc il faut en sélectionner et se dire qu'est-ce que je peux changer dans ma vie aujourd'hui pour diminuer soit le risque de cancer, soit diminuer le risque de récidive. Donc moi, j'ai arrêté de boire de l'alcool.
Ah ouais, complètement. Ouais. Non mais en plus c'est noble. Moi j'ai l'impression qu'il y a un mouvement. Je suis des personnes qui parlent, tu vois, de cette sobriété. Mm-hmm. C'est juste que ouais, je trouve que ça, socialement, il y a quand même un truc où c'est très fun quoi de temps en temps. Et j'ai un peu du mal avec l'idée de privation. Donc ouais. Je pense qu'il faut vraiment. Enfin tu vois, dans ton cas, c'est tu sais pourquoi tu le fais quoi. Il y a vraiment oui. Il faut cette motivation, je pense, supérieure pour réussir à être dans une forme de contrainte, mais qui ne se ressent pas comme ça, quoi.
Je suis complètement d'accord. Et moi, je m'étais toujours dit, quand j'ai eu mon diagnostic, je vais arrêter l'alcool. Et la réalité, c'est que j'ai pas réussi. Ça m'a pris 4 ans avant d'arrêter l'alcool. Donc même quand j'ai été diagnostiquée, je continue à boire un petit peu. Pendant les chimios, j'ai arrêté complètement parce que voilà, c'était contre-productif. Mais après, j'ai repris sans excès, mais je m'étais dit, bon, je peux vivre, je peux continuer de vivre. Et en fait, il y a deux ans, je me suis réveillée et je me suis dit, bon, j'ai plus envie. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même cette petite épée de Damoclès qui te dit, bon, qu'est-ce que tu pourrais enlever pour réduire. Et c'était un des trucs, et c'est vrai que ça me manque pas du tout, et j'ai trouvé des alternatives. Mais il faut choisir, et j'ai envie de dire que si la frustration, elle est aussi forte que le plaisir de ne pas boire d'alcool, autant boire un verre de temps en temps et manger des légumes verts, en fait. Enfin,
ouais, ouais. C'est bien, on prendra ton livre pour lire les astuces de comment arranger les choses.
Exactement.
Et t'as pas cité les produits laitiers ?
Les produits laitiers, non, parce que ça n'a pas été prouvé.
Okay.
On n'est pas aux États-Unis, en fait. Ici, il n'y a pas d'hormones, en tout cas, scientifiquement, qui sont démontrées, de donner aux vaches pour qui vont être transmises à l'humain. Donc, j'ai pas envie de dire les produits laitiers, parce que en plus, il y en a dans énormément de choses. C'est compliqué d'arrêter aussi les produits laitiers. Moi, je dis juste aux gens, achetez du bio ou achetez local, achetez la bonne vache, allez chez votre fournisseur, chez votre petit producteur, n'allez pas en grande surface, sachez d'où est-ce que viennent vos produits et ça va aller. Et toujours, pas dans l'excès, en fait, vraiment dans la mesure, avec parcimonie, parce que de toute façon, l'excès de tout nuit, je pourrais que manger des légumes verts tous les jours, en fait.
S'il n'y a que ça, ça ne sert à rien. Productif sur long
donc
terme,
voilà, moi, je ne suis pas dans la privation de qui que ce soit. Je suis végane aujourd'hui. Je n'étais pas végane quand je suis tombée malade. Aujourd'hui, je suis végane. C'est quelque chose que j'explique dans le livre. Est-ce que le véganisme s'appliquerait à tout le monde quand on n'a pas envie de récidiver? Je dis non, en fait, parce que moi, j'ai fait des études de nutrition végétale. J'ai mis 7 ans avant de devenir végane. Je ne suis pas devenue végane du jour au lendemain. Je me suis renseignée. Si ça ne marchait pas pour moi, je ne le ferais pas. Il y a des gens qui ne vont pas prendre le temps. Je ne vous conseille pas de le faire. Continuez à faire ce que vous faisiez avant. Voyez ce que vous pouvez ajouter, ce qui va être dans le bien-être, et allez plus vers ça. Mais n'allez pas vers quelque chose qui va vous priver, où vous allez manquer de vitamines et manquer d'énergie pour juste cicatriser, juste pour vous sentir bien au niveau santé mentale. En fait, ça ne sert à rien. Donc.
En fait, c'est vrai que je trouve la vision d'ajouter plutôt que de retirer est plus bénéfique et plus motivante. Se dire, ok, est-ce que je peux rajouter des légumes verts à un repas par jour?
Exactement.
Est-ce que je peux rajouter ou remplacer une eau en effet, je pense que niveau adaptation, c'est quand même plus efficace.
Exactement.
Est-ce qu'il y a d'autres facteurs à part l'alimentation qui jouent? J'ai quand même observé, et je le dis en disclaimer énorme, je ne suis absolument pas médecin, un immense respect pour les médecins,
moi non
plus. Je remercie des médecins qui ont sauvé ma santé mentale, mais c'est vrai que je n'ai pu m'empêcher d'observer cette corrélation entre 4 personnes, 3-4 personnes que je connais, femmes, qui ont pris la pilule Diane 35 et qui ont eu derrière un cancer du sein. Donc voilà, après c'est peut-être une coïncidence, et c'était aussi que des personnes très, et c'est donc ça fait écho à je pense que tu disais au début, des personnes qui avaient un tempérament très à faire beaucoup de choses, très voilà, on dirait yang, enfin tu vois, qui ont un tempérament très actif. Et bon, je pense que ce sera toujours assez difficile à prouver, mais tu vois, est-ce que tu sais à quel point en fait la pilule, qui est quand même une prise d'hormones, et un tempérament peuvent avoir une influence sur le cancer du sein?
Alors, c'est prouvé aujourd'hui que le stress, l'anxiété et le surmenage, donc je pense que quand on a un tempérament comme ça, en plus, on a tendance à négliger son sommeil, et le manque de sommeil peuvent augmenter les risques d'avoir un cancer, ça c'est sûr et certain. Après, la pilule Diane 35, il y a uniquement aujourd'hui la pilule combinée qui est prouvée pour avoir augmenté les risques. En tout cas le taux de cancer du sein, ça
c'est quoi la pilule combinée?
Et ben la pilule
combinée, c'est œstrogène progestérone.
Exactement, c'est ça.
Mais donc c'est Diane 35, non?
Ben voilà, ben ouais, ça doit être celle-ci. Moi j'ai pris la pilule pendant 2 ans, après j'ai arrêté et je m'en suis pas
c'était pas forcément lié.
Après il y a ce qu'on appelle l'effet cocktail qui est l'accumulation de perturbateurs endocriniens. Donc un perturbateur tout seul, ça va aller. Un perturbateur tout seul, ça peut aller. Par contre, quand tu commences à faire 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, là, tu vas commencer à avoir cette accumulation de perturbateurs endocriniens. Et quand ils sont tous ensemble, ça peut créer un cancer du sein. Donc, peut-être que le fait qu'elles prenaient la Diane 35, plus le fait qu'elles étaient aussi stressées, plus qu'elles manquaient de sommeil, plus qu'elles buvaient aussi peut-être de l'alcool, a fait que tout ça a augmenté le risque d'avoir un cancer du sein. Et que peut-être la Diane 35 sur le chapeau de tout a encore plus augmenté ce risque-là. Donc ça aujourd'hui malheureusement c'est des choses qu'on peut pas prouver. Il y a aussi le surpoids, tu vois, l'obésité, et moi je le dis avec beaucoup de caution parce que j'ai envie de vivre, j'ai envie de manger ce que j'ai envie de manger, mais je sais que si je dépasse un certain poids, ça augmente mon risque de récidive.
D'accord.
De cancer du sein. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est que j'ai en tête, tu vois. Cet été, j'ai fait plein d'excès. Je le disais dans mes stories l'autre jour, j'ai pris du poids, je me sens grosse, je me sens mal. Mais c'est aussi parce que dans ma tête, j'ai le truc de faut que je fasse attention parce que ça augmente les risques de récidive. Et ça, on en parle moins aussi. Et c'est des choses sur lesquelles, malheureusement...
Mais tu vois, sur ce point-là, moi, ce que je fais, qui est un peu à chaque fois l'argument que j'avance aux personnes qui m'énoncent à juste titre les problèmes de santé que peuvent entraîner un surpoids, c'est, ouais, mais en fait, il y en a qui ne choisissent pas d'être en surpoids.
Ouais.
Et donc, c'est comment, tant pis pour elle. Enfin, il y a un côté, je trouve, hyper difficile à accepter. Tu vois, quand t'as un SOPK,
oui.
Et que, en fait, t'es en surpoids, et j'en connais, elles mangent deux fois moins que moi, et ben, elles sont en surpoids au vu de l'IMC, tu vois. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, en fait ?
Bah là, c'est déjà un dérèglement hormonal, du coup, puisque t'es dans le SOPK ou l'endométriose.
Ouais,
ou,
donc, alors, pour SOPK, pour décrire, c'est syndrome des ovaires polykystiques.
Exactement.
Donc, c'est quand on a des kystes aux ovaires, et il y a souvent des effets secondaires, comme de l'acné, parfois de l'hirsutisme, et une résistance à l'insuline, qui, du coup, mène à une prise de poids presque inexpliquée, quoi, qui n'est pas forcément liée juste à ce que vous mangez.
Exactement. Et bien là, tu es déjà, on va dire, dans un dérèglement hormonal. Donc, les premières choses à faire, même si l'activité physique ne va pas faire perdre de poids, elle va augmenter tout ce qui va être bien-être cardiaque, bien-être mental. Et du coup, tu es plus dans un rapport de, j'ai pas envie de dire bénéfice-risque, mais en tout cas d'équilibre, tu vois. Et c'est ça qu'il faut trouver, en fait. Moi, je suis pas non plus parfaite partout, mais je me dis, je vais trouver un équilibre physique et mental qui va me permettre de compenser, on va dire, les choses que je peux pas changer, parce qu'on peut pas tout contrôler, en fait. C'est ça, la vérité. On peut pas tout contrôler. Si on a ce corps-là qui ne nous répond pas aussi, qu'est-ce que je peux faire ? Comme dire, on va ajouter du bien-être. Moi, ce que je dis toujours, on va pas enlever, on va ajouter ce bien-être pour essayer de compenser ce qu'on peut pas contrôler. Et il faut pas se focaliser, malheureusement. Je sais que c'est frustrant, et même moi j'ai eu des problèmes aussi gynécologiques, et quand j'ai fait la conservation des ovocytes, je suis passée par toutes ces étapes de fertilité qui sont très difficiles psychologiquement. Mais en fait, encore une fois, les hormones, on peut pas les contrôler de cette façon-là. On peut les accompagner, on peut aller vers un mieux-être, mais il faut se dire que notre base, c'est ça, notre réalité. C'est ça, il ne faut pas se marteler aussi et se flageller sur ces choses-là et se dire quelles sont les choses positives que je peux rajouter, parce que ma base, en fait, elle est telle qu'elle est. Moi, ma base aujourd'hui, c'est un risque de récidive de cancer du sein. Donc, quel est le bien-être que je peux rajouter ?
Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu partager sur les réseaux sociaux ton histoire, ton parcours ? Est-ce que ça a commencé à la période où on t'a découvert le cancer du sein ?
Pas du tout, justement. Quand on m'a découvert le cancer du sein, donc j'ai fait un an de traitement et j'étais un petit peu sur les réseaux, mais c'était 2016, donc c'est pas ce que c'était aujourd'hui. J'en parlais vite fait, mais vraiment des petites stories, je suis à l'hôpital et tout ça. Et quand j'ai fini mes traitements, j'ai complètement arrêté les réseaux sociaux, parce que je rentrais dans mon après-cancer. J'avais plus envie d'entendre parler de cancer, j'avais pas envie de savoir ce qui se passait sur les réseaux, j'avais pas envie de voir la vie fabuleuse des gens qui se marient alors que toi, t'es là, t'as pas de sein, voilà. Et pendant 4 ans, j'ai arrêté les réseaux. Et je suis revenue sur les réseaux il y a 2 ans dans le but de partager mon expérience. Et là, ça faisait déjà 5 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, il y a énormément de personnes, donc d'amis, qui m'ont présenté des amis à eux qui avaient des cancers du sein. Et ces dames-là, ces filles-là, ne savaient pas vers qui se tourner. Elles avaient plein de questions. Et au bout d'un moment, c'était tout le temps toutes les mêmes questions. C'est-à-dire que j'ai eu une quinzaine de nanas pendant le confinement qui avaient les mêmes questions par rapport à la mastectomie, par rapport à la sexualité, par rapport à l'alimentation. Je me suis dit, mais attends, déjà, je ne suis pas docteur. Ok, j'ai eu cette expérience, mais c'est mon expérience. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment ce manque, en fait, de partage d'expérience. Et je suis arrivée à la date butoir des 5 ans, donc qui est une date très importante pour quelqu'un qui a eu un cancer, parce qu'après 5 ans, ça diminue les risques de récidive de cancer. Donc, psychologiquement, tu es déjà un peu libérée. Je n'aurais pas du tout pu partager quand j'étais dans l'après-cancer sur les réseaux. Et vraiment, j'applaudis les nanas qui le font, parce que moi, j'aurais pas pu, je sais pas comment elles font, même d'être dans un cancer et être partagée sur les réseaux et avoir la vue de tout le monde et tout, c'est hyper difficile. Mais en revanche, j'étais 5 ans après, je me suis dit, j'ai un peu d'expérience, je vois que je donne toujours les mêmes conseils, je vais partager sur les réseaux et je vais voir ce que ça donne. Mais clairement, il y a un manque quelque part et c'est là que je me suis lancée le 1er octobre 2021 et depuis, ça a bien pris. Et je pense que les gens, en fait, sont dans un entre-deux aujourd'hui où j'ai pas envie de dire qu'il y a un manque de confiance dans le milieu médical, mais en tout cas, il y a un manque d'empathie qui fait qu'il y a un manque d'humanité un petit peu où le docteur va soigner très pragmatiquement et puis tu vas arriver, il va dire chirurgie, tel jour, bonjour, au revoir. En fait, la personne, elle veut plus. Et je comprends complètement, avec le recul aujourd'hui, qu'ils ne sont pas là pour nous tenir la main. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin d'avoir la main qui soit tenue au bout d'un moment. On a des questions auxquelles on a besoin de réponses et on ne les a pas. Et dans le livre, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment de dire, voilà mon histoire, voilà ce que j'ai traversé. voilà ce que telle autre personne a traversé, c'est son témoignage, voilà où vous en êtes dans votre parcours de soins, est-ce que votre docteur vous a peut-être proposé, prenez tout ça et faites votre propre choix. Et c'est vraiment reprendre le choix de ton parcours de soins, en fait. C'est de dire, moi, la préservation des ovocytes, on ne me l'a pas proposé.
Ah bon ?
On ne me l'a pas proposé, on ne la propose pas systématiquement. Pourquoi ? Parce que j'ai eu un cancer hormonal. La préservation des ovocytes, c'est encore des hormones. Puisque du coup, on va...
Oui, on te donne des hormones. Mais tu,
exactement.
Tu l'as faite du coup ou pas ?
Et du coup, c'est... Bah, j'ai demandé à mon docteur, pourquoi vous ne me la proposez pas ? Il me dit, bah, vous avez déjà un cancer hormonal, si on vous met plus d'hormones, ça peut augmenter les risques de... Mais je n'avais pas encore eu ma chimio. J'ai dit, ouais, mais pour moi, la chimio, psychologiquement, elle va s'occuper de tout ça, en fait. Et là, vous m'enlevez le choix de pouvoir me dire que, bah, un jour, je pourrais peut-être être mère et de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire avec mon corps, en fait. Donc, demandez-moi, en fait, avant de me dire, avant de ne pas m'informer, moi, j'ai su parce que mon cousin fait des FIV. Donc, c'est lui qui m'a dit, mais au fait, c'est quand ton truc ? Je ne savais même pas c'était quoi. Et c'est là que j'ai su, en fait. Et du coup, ne pas proposer, pour moi, c'était passer outre mon droit de choix de femme sur mon corps. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais sachez que ça existe. Et quand j'ai posé la question dans mes stories à ma communauté de si vous aviez ce choix et si on vous disait que ça vous risquait d'augmenter le risque d'augmenter votre cancer dans votre corps ou de récidive, est-ce que vous le feriez ? Et 87% des personnes ont répondu oui. Je le ferai quand même.
Ah ouais ?
Tu vois,
mais en fait, c'est vrai que ça paraît évident de laisser le choix, en fait.
Bah ouais.
Enfin, ton corps, ton choix. Tu vois, on en revient toujours là, mais...
Exactement, sauf que le docteur, lui, est très pragmatique. Il se dit, bah non.
Moi, mon but, c'est de la guérir.
Bah, exactement.
Si ça augmente ses chances, au contraire, souffrir.
Et c'est pour ça que je dis, je suis pas du tout contre le système médical. Je suis pour montrer tout le scope de ce qui existe et ce qui peut arriver pour qu'ensuite, vous choisissiez. Et quand on est malade, on a tellement de ressources sur lesquelles on peut aller sur Google, on peut demander plein de questions, mais sauf qu'on est fatigué, en fait. Et j'avais juste envie de tout mettre dans un seul livre et dire, bah voilà, j'ouvre à telle page et je sais que, bon, bah, il y a ça et je peux aller demander à l'assistante sociale de l'hôpital ou à ce groupe de soutien ou à cette association. Mais en tout cas, je sais que ça, ça existe.
Oui, et puis surtout, c'est de confiance. Tu vois, je pense que la partie mentale, et on va y venir aussi... joue un énorme rôle. Je n'arrive pas à expliquer aujourd'hui le lien tellement entre corps et esprit, mais il y a des témoignages aujourd'hui assez incroyables et extraordinaires de personnes qui arrivent à guérir ou retrouver la vue par le pouvoir du mental. Et à l'inverse, je pense que ça peut aussi détruire. Et feu ma grand-mère, que j'aimais énormément, tu vois, elle utilisait un peu Internet, elle avait 70 ans, donc elle allait juste sur Google, puis elle n'avait pas le recul critique, quoi, pour comprendre ce que nous, on sait aujourd'hui. Et j'ai toujours eu cette espèce de conviction que le fait qu'elle regarde tous les jours, elle a eu un cancer de l'estomac, j'ai pas eu les détails parce que j'étais assez jeune, mais pour moi, si tu veux, elle s'est un peu laissée mourir, parce qu'en fait, elle avait tellement lu qu'elle était condamnée, qu'en fait, à partir du moment où tu crois que t'es condamnée, bah, c'est sûr que le cerveau, apparemment, de ce que j'ai pu lire, va vérifier ta croyance un peu.
Exactement.
Donc ça ne veut pas dire que parce que tu crois que tu vas guérir, tu vas forcément guérir, mais en tout cas, ça ne peut que augmenter tes chances de guérison, quoi.
Exactement. Et il y a des études qui prouvent aussi que ça peut augmenter ton bien-être, ta confiance en soi, en toi, et du coup que tu peux juste mentalement être dans plus de positivité et justement commencer un peu à guérir tes cellules. J'ai mis des études dans le livre autour de la méditation qui aussi permet de guérir un petit peu les cellules. Donc il y a plein de choses liées au mental, liées aux médecines holistiques, liées aux médecines douces qui peuvent aider mentalement à accompagner justement pendant ces traitements plus lourds. Et moi, c'est pour ça que je dis toujours, bah, l'entourage, c'est hyper important. Le mental, c'est hyper important. Moi, dans le livre, je parle pas du tout de mort parce que c'est pas quelque chose que j'ai considéré. Donc, je me sentais pas à ma place d'en parler. J'ai donné des recommandations de livres, mais en fait, c'est pas du tout quelque chose que j'ai voulu considérer parce que même si on m'a dit, oui, bah, votre cancer se soigne très bien, ok, mais en fait, une opération, il y a toujours un risque. Une chimiothérapie, il y a toujours un risque. C'est quand même un cancer. Il y a quand même un risque. Mais moi, je me suis refusé d'y penser et c'est pas quelque chose que j'aborde parce que c'est juste pas quelque chose que je connais. Et je pense que c'est un sujet très lourd. Et je pense qu'en effet, quand on se met dans cet état d'esprit et qu'on se convainc, et j'ai connu quelqu'un comme ça malheureusement l'année dernière, qui en 6 mois de diagnostic est décédé. C'était très rapide, c'était trop rapide. Mais elle s'était convaincue que c'était fini pour elle. Et oui, le mental joue énormément sur le bien-être global. Et j'ai aussi des infirmières qui me disaient « Waouh, il y a toujours des gens chez vous, c'est incroyable. » Je lui dis « Bah ouais, j'habite toute seule dans le cinquième. » Enfin, je suis célibataire, oui, je suis malade, il y a des gens. Elle me dit « Ah non, mais je crois que vous ne comprenez pas, en fait. Moi, la plupart des gens que je vois, il n'y a personne chez eux. Je suis la visite du jour. » Je dis « Mais c'est incroyable. » J'ai dit « Même des jeunes femmes et tout me disent « Oui, oui. » Et en fait, il n'y a pas l'entourage qui est là pour soutenir, pour avoir ce soutien mental. Et ça va avoir un impact.
Mais je pense que c'est aussi lié... c'est peut-être une réaction de défense, l'isolement, parce que comme il y a une espèce de honte qui ne devrait pas exister, mais qui malheureusement est présente dans notre société, que peut-être certaines personnes se disent « En fait, je préfère voir personne que de voir quelqu'un malade. »
Exactement.
Enfin, en étant malade, en et du coup, malade. En n'étant pas vraiment moi-même ou qui j'ai envie d'être, quoi, au monde.
Exactement, il y a cette envie de ne pas déranger. Il y a ces études aussi autour des femmes qui sont mères célibataires, qui n'ont pas envie de demander de l'aide en plus parce que elles n'ont pas envie de donner le poids de gérer les enfants à quelqu'un d'autre. Du coup, elles vont tout prendre pour elles. Donc encore une fois, le poids de la société qui dit que t'es déjà malade, mais en plus tu prends ton mal en patience. Et du coup, t'as, comme tu dis, t'as un peu cette honte et cette peur du regard de l'autre, en fait, parce que c'est dans les yeux de l'autre que tu vois que t'es malade.
Ouais.
Tu vois, c'est hyper violent des fois quand tu t'annonces ton cancer et que tu vois la peur dans les yeux de la personne. Et ça, c'est pas quelque chose avec lequel t'as envie de dormir et t'as envie de te dire que ça vient de se passer. Des fois, tu préfères te couper et te dire bon, je reste toute seule, mais je le dis et je le redis, et je sais qu'on n'a pas tous l'option d'avoir un entourage qui vient dormir chez toi par terre, comme moi ça a été le cas. Il y a des associations, il y a des groupes de parole, il y a des gens qui sont là pour aider. J'ai notamment parlé à l'association Amazon, qui est une association pour les femmes qui ont eu des cancers du sein dans les dom-toms. Et du coup, ces personnes-là doivent souvent venir en Hexagone pour se faire soigner. Et en fait, elles arrivent, elles sont isolées. Et ces associations-là, elles vont se charger déjà de leur acheter des manteaux, parce que quand tu arrives en février de Guadeloupe ou de Martinique...
Tu comprends pas trop ce qui se passe.
Exactement. De mettre Internet, de faire des dîners avec elles, d'aller au rendez-vous avec elles. Donc voilà, il y a des choses qui sont faites. Il y a des assistantes sociales qui sont là, et on a tendance à vouloir s'isoler. Et si on n'a pas envie de parler à sa famille, il y a des gens, je le dis vraiment, c'est violent l'isolement qu'on peut, auquel on peut se soumettre quand on est malade, et il y a des choses qui existent pour ne pas être seul.
Ok, hyper intéressant, et ça fait toujours chaud au cœur, chaud de voir le travail des assos sur le terrain, c'est vraiment hyper beau. Avant de parler de santé mentale, pour revenir juste sur cette question des ovocytes qui, en fait, je pense, intéresse pas mal de personnes qui nous écoutent, parce que je crois que ça fait 1 ou 2 ans que c'est remboursé par la Sécu pour tout le monde.
Exactement.
Donc c'est une révolution aujourd'hui qu'on commence à découvrir. Est-ce que toi, du coup, tu as fait exactement le même protocole qu'aujourd'hui une femme de, je sais pas, 29, 30 ans qui voudrait aller congeler ses ovocytes pour peut-être un jour avoir des enfants?
Ouais, j'ai fait le même protocole.
Pas de protocole spécial, quoi.
Même protocole, excepté que je suis en priorité.
D'accord.
Avant, moi, je l'ai fait quand ça n'existait pas encore. Et c'est depuis septembre 2021, si je ne dis pas de bêtises, pour les femmes de 29 à 37 ans. Et l'attente est très longue. Il y a des attentes de 1 an, 2 ans parfois. Donc, faut demander très tôt. Mais sinon, c'est le même protocole avec les injections tous les jours, aller faire vérifier à l'hôpital et ensuite la ponction pour les ovocytes. Et moi, je dis dans le livre d'ailleurs... On va vous donner le choix de faire une anesthésie locale ou une anesthésie générale. J'ai choisi l'anesthésie locale. Erreur. Ouais. Prenez une anesthésie générale.
C'est vrai que j'ai pas eu de très bons retours.
Ah non, mais prenez une anesthésie générale. Je pensais que ça allait être juste une petite piqûre comme ça. Non, non, non. Déjà, mentalement, on est fatigué. Vous n'avez pas en plus envie de vous mettre ça sur le dos et de voir la taille de l'aiguille et tout. Non, prenez une anesthésie.
Tu me fais peur. C'est... Parce que je vous t'ai dit, je vais le faire. Alors, j'ai pas encore 29, mais je trouve ça chouette. Enfin... Chouette d'avoir cette option-là qui t'enlève comme une charge mentale.
Complètement.
Mais l'anesthésie générale, j'ai un peu peur du côté... t'as quand même une petite chance de jamais te réveiller.
c'est le risque de toute opération. Tu vas te réveiller. C'est le risque de toute opération. Mais si on peut le faire aujourd'hui, moi, je recommande, si c'est une envie, en tout cas pour le futur, et qu'on on va avoir les meilleures chances. 29-30 ans, c'est le meilleur âge. Moi, j'ai eu la chance, on va dire, de le faire à 31 ans. Et du coup, j'ai eu 17 ovocytes. Et je me dis, s'il y a quelque chose, au moins, c'est déjà ça de gagner, on va dire. Ouais.
Et là, du coup, est-ce qu'il y a des contre-indications? Maternité, cancer du sein? Est-ce que, vu que tu as terminé finalement tes traitements, Tu as la voie libre, comment ça se passe?
Alors, il faut attendre en général 2 ou 3 ans, ils proposent avant de tomber enceinte. Parce que voilà, avec les traitements, le temps que le corps se remette, les choses comme ça, il faut un petit peu attendre. Et après, une fois que tu as attendu ce moment-là, tu peux complètement y aller et tomber enceinte naturellement.
Ça, c'est chouette. Il n'y a pas de séquelles
Moi, j'ai eu mes règles qui sont revenues après 1 mois. D'accord. En général, en moyenne, c'est 1 an. Moi, c'était comme ça.
Waouh! Toi, t'es réglé.
Voilà. Okay. Donc, c'était très, très rapide. Mais parfois, c'est 1 an. Parfois, elles ne reviennent pas du tout. D'où l'importance de faire la conservation des ovocytes. Parce que si elles ne reviennent pas du tout, la FIV pourrait être une des seules au-delà de l'adoption. Ouais. Mais oui. D'avoir un enfant avec ses gènes. Mais du coup, moi, j'ai été réglée. J'ai refait les tests gynécologiques par rapport à la fertilité. Tout va très bien, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais je continue à renouveler l'abonnement à mon centre de congélation des ovocytes, parce qu'on ne sait jamais, en fait. Et
qu'est-ce
que
ça fait, cet abonnement? Qu'est-ce qui permet?
C'est tous les ans, on doit renvoyer un document, moi c'était à l'hôpital à Clamart dans 92, où on doit cocher est-ce qu'on veut que les œufs soient détruits, est-ce qu'on veut continuer à les garder, ou est-ce qu'on veut qu'ils soient faire un don d'ovocytes. On peut faire un don d'ovocytes à des couples qui ne peuvent pas, ou on peut aussi les donner à la science. Voilà, donc ça c'est tous les choix. Et si on ne répond pas, sous 1 an, ils vont considérer que c'est fini, et puis ils vont les détruire. Voilà.
Il faut que ce soit quand même une logistique. C'est assez fou de se dire que tu as des potentiels futurs bébés là, dans des placards. Il ne faut surtout pas se tromper de personne, parce que sinon tu porterais le bébé de quelqu'un d'autre. Enfin,
exactement.
On entre dans une ère un peu spéciale, mais... Ouais. Je suis reconnaissante qu'il y ait de plus en plus d'options, finalement,
moi aussi.
Pour tout le monde. Quoi.
Moi aussi, et j'ai demandé d'ailleurs à ma communauté qu'est-ce qu'ils feraient, parce que du coup, l'autre jour, ça arrivait, et puis je me suis dit, est-ce que je continue, pas, et tout ça. Et puis j'ai demandé, vous feriez quoi, en fait? Est-ce que vous les utiliseriez? Parce que je crois que tu as jusqu'à, si je ne dis pas de bêtises, 42 ans pour commencer à les utiliser, après jusqu'à 45 ans, et après, ils considèrent que c'est un petit peu trop tard. Et beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils feraient le don d'ovocytes, parce qu'il y a un manque d'ovocytes France. Et aussi pour les personnes racisées, parce qu'ils ne donnent pas d'ovocytes blancs à une personne noire, par exemple.
D'accord.
Et du coup, il n'y a pas beaucoup de dons d'ovocytes de personnes noires. Donc moi, je pense que dans le futur, je pourrais donner mes ovocytes.
D'accord, hyper intéressant. Santé mentale, parce que finalement, c'est très lié à la santé physique.
Ouais.
Ta période, déjà, sous traitement, comment tu la vis psychologiquement?
Alors, sous traitement, j'ai envie de dire que ça allait, parce que j'étais vraiment la nana qui allait de l'avant, où je me suis dit, je vais bien tout faire. Tu vois, depuis moi, j'avais un classeur et tout, avec les intercalaires, telle date.
La bonne élève.
Numéro 1 de la classe. Bon, les dates n'ont pas tenu au bout de 3 mois, tout partait, voilà. Mais j'avais ce classeur-là. Du coup, je faisais vraiment bien le sport, la respiration, la méditation et tout ça. Donc là, ça allait, tu vois, dans la période traitement où t'es vraiment réglé par l'hôpital, par les rendez-vous. La radiothérapie, ensuite, c'est tous les jours à la même heure, donc pendant 1 mois, du lundi au vendredi,
tous les jours.
Tous les jours, mais ça dure 10 à 15 minutes, d'accord. Pas très long, mais ça peut être fatigant parce qu'il faut aller à l'hôpital tous les jours. Et ensuite, quand il n'y a plus les rendez-vous et qu'on vous dit ça y est, c'est fini, vous pouvez rentrer chez vous et puis vous pouvez penser à la reconstruction, qu'on se retrouve tout seul face à ce qu'on vient de vivre. On a 2 choix, soit on est dans le déni et on se dit cool, je vais reprendre ma vie normale, soit on commence à sombrer. Moi, j'étais dans le déni. Donc là, j'étais vraiment dans le déni pendant 2 ans, je pense. Ouais, 2017-2019, j'étais dans le déni de juillet 2017 à juillet 2019, où je suis reparti revivre ma vie dans l'événementiel et j'ai voyagé et tout ça. Et juillet 2019, ça a été le début de la descente psychologique pour moi, où vraiment là, j'ai jamais eu de postpartum, mais je pense que vraiment comme si j'étais dans une début de descente de postpartum, et je pleurais tout le temps. C'est-à-dire que je pleurais tout le temps, j'étais fatiguée, la chimiothérapie aussi faisait que j'avais des pertes de mémoire, parce que ça, c'est un des effets secondaires qui peut rester plus longtemps. Donc t'es là, tu commences à te questionner, est-ce que tu te souviens bien de tout, et tu commences à te dire, putain, t'as quand même douillé pendant 1 an, la mastectomie, le rejet de la prothèse, et petit à petit, tout commence un petit peu à te rattraper, et j'ai commencé ce qu'on appelle l'hormonothérapie, Donc l'hormonothérapie, c'est un médicament qui nous met sous ménopause précoce après le cancer pour éviter la récidive. Donc il va fermer tous nos récepteurs à ces fameuses hormones pour éviter la récidive. Sauf qu'une ménopause précoce, quand on a 30 ans, 31 ans, ça veut dire de la sécheresse vaginale, en tout cas possiblement, et moi ça a été mon cas, de la sécheresse vaginale, des maux de tête, de la fatigue chronique, mal de corps, ostéoporose, voilà, beaucoup d'effets, perte de libido. Et j'ai eu tous ces effets secondaires sous cette hormonothérapie. Et l'hormonothérapie, j'avais refusé de la prendre pendant 2 ans.
Ah oui, donc c'est pour ça que ta période de déni et ta période, si je fais bien les maths, de Tinder, Gloria,
exactement.
Voilà, c'était cool.
Exactement.
Et une fois que l'hormonothérapie commence, là ça
commence à descendre.
Histoire.
Et je me suis dit, je vais l'essayer. Parce que si j'essaye pas, je pense que moi je suis toujours aussi dans le test, mieux vaut essayer, savoir et puis après arrêter. Je vais l'essayer et après il y a eu le confinement. Et là le confinement tout s'arrête, donc plus possible de voyager et là t'es confronté avec toi-même.
Ouais, ça a dû être dur.
Ouais, là ça a été très très violent. Très violent tous les jours pour sortir du lit, littéralement moi je me roulais de mon lit en fait pour tomber juste parce que sinon j'allais rester dans le lit toute la journée. Je pleurais sans savoir tout. Pourquoi toute la journée, des idées noires tout le temps, je ruminais tout le temps. Enfin, vraiment, j'étais au bout du rouleau. Et là, je me suis dit, soit je vais en thérapie, soit je finis, en fait. Et il n'y a plus rien après. Et je me suis dit, je vais commencer la thérapie. Et je n'étais pas du tout quelqu'un qui croyait à la thérapie avant. Je me suis dit, oui, ça marche pour les autres, mais pour moi, ça ne va pas marcher. Culturellement, chez nous, on ne fait pas forcément de thérapie. Mais je me suis dit, c'est... On essaye, sinon de toute façon c'est fini. Donc il y a.
Et quand tu dis c'est fini, tu parles de toi ou du traitement ?
Ah non, c'est de moi. D'accord. Moi je suis fini. Moi je me finis et ça marchera pas.
Et j'ai t'as commencé... pas pensé à arrêter le traitement ?
Non, j'ai pas pensé à arrêter le traitement à ce moment-là parce que je me suis dit tiens, ça fait quoi ? Ça fait 4-5 mois. Allez, tu vois, t'es plus dur que ça, tu vois, tu devrais pouvoir.
C'est
en
terrible,
fait.
Hein, ce sentiment de responsabilité,
exactement.
Comme si on pouvait tout.
Exactement, et il y avait d'autres dames, tu vois, à qui je parlais, qui me disaient non, moi ça va, et tout ça. Je me dis, mais je comprends pas, attends, pourtant, je fais les trucs bien, donc ça devrait passer. Donc je vais aller en thérapie, et je commence à parler, machin. Et ça m'aide bien la thérapie, mais. Avec l'hormonothérapie, en fait, c'était trop. Donc, j'ai continué pendant 6 mois l'hormonothérapie et je voyais que je faisais des progrès en thérapie sur d'autres sujets par rapport à des choses qui s'étaient passées au cancer, par rapport à des choses de l'enfance, du coup, parce qu'on commençait à vraiment tout remuer. Voilà, il n'y a pas que le cancer et tout ça. Mais en fait, après, je me rends compte que physiquement, tout ce qui se passait avec l'hormonothérapie, en fait, j'en voulais plus, ça se passait plus. Et là, je suis arrivée à un moment où, bon, ça va mieux dans la tête. Mais j'ai quand même envie de me suicider tous les matins. Pardon, trigger warning. J'ai quand même envie d'en finir tous les matins. Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on arrête. Et là, j'ai dit à mon docteur, moi, je suis désolée, j'arrête. Et je le dis dans le livre, il faut être très, très fort psychologiquement pour arrêter l'hormonothérapie auprès de son équipe médicale. Parce que là, tous les jours, ils vont vous dire, faut faire l'hormonothérapie. Vous comprenez bien que vous augmentez vos risques de récidive. Vous comprenez bien que vous êtes jeune. Je dis oui, mais en fait, je préfère être jeune et vivre ma vie qu'être jeune et sauter sur des rails en fait demain, parce que c'est ce qui allait m'arriver. Et c'est un choix que j'ai fait consciemment. Je le regrette pas du tout. Je le referai demain en un clin d'œil. Il y a des femmes pour qui ça se passe très bien et je suis hyper contente pour elles. J'aurais aimé que ce soit mon cas, c'est pas mon cas. Il y a beaucoup de femmes qui arrêtent tous les ans. Je crois que c'est 30% des femmes qui arrêtent tous les ans parce qu'elles n'en peuvent plus au bout de 2-3 ans. C'est 5 à 10 ans. C'est énorme comme parenthèse quand on est jeune, quand on est moins jeune aussi, c'est énorme parce que voilà, on se dit on va profiter de sa vie et tout, et là, flan, on se prend tout ça dans les dents. J'ai essayé tout ce qui est comment ça s'appelle, lubrifiant, jeu, machin, enfin tu vois, on voit des sexologues et tout ça, mais en fait ça marche pas. Et là, je le regrette pour rien au monde. Et ça m'a vraiment aidé à me dire, en fait, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Je passe à autre chose, mais je préfère vivre ma vie aujourd'hui. Et c'est des questions qui reviennent énormément en DM de femmes qui me disent toi, l'hormonothérapie, en fait, qu'est-ce que t'en penses ? Et je dis, moi, je te dis pas quoi faire. Encore une fois, voilà ce que c'est. Voilà ce qui s'est passé pour moi, voilà ce qui s'est passé pour d'autres. Maintenant, t'as toutes les cartes en main. Fais ce que tu veux. Mais je dis quand même à tout le monde d'essayer parce qu'on sait jamais, en fait.
Ah oui, c'est sûr, mais c'est double sentiment d'injustice. Hein. Et tu te dis,
exactement.
Pourquoi ? Exactement. Est-ce que je peux pas juste prendre ces hormones sans que ça me bousille ma santé
Exactement.
Mentale quoi.
C'est... Ouais. On ne va pas avoir à faire le choix. Je pense que si c'était les hommes qui avaient besoin de les prendre, il n'y aurait pas tous ces effets secondaires-là. Je ne suis pas sûre, mais il y a tellement d'effets secondaires. Je me dis, mais ce n'est pas possible, vous ne vous rendez pas compte.
C'est quoi comme hormone, tu sais
Alors, c'est des... Bah, c'est pas forcément des hormones, c'est vraiment quelque chose qui vient arrêter les hormones, en fait. Donc, ah, ça enlève les œstrogènes. D'accord. C'est vraiment la ménopause. C'est vraiment la ménopause précoce. Où ça baisse le taux d'œstrogène, en fait, comme quand on a un trop plein d'œstrogène quand on va accoucher, et puis tout descend d'un coup, postpartum, plus. Voilà, c'est ça, en fait. Et du coup, ouais, c'est très violent, et 5-10 ans, encore une fois, c'est trop long.
Mais du coup, tu vois, prenons quelqu'un qui aurait 35 ans, qui a un cancer du sein, qui fait congeler ses ovocytes, et qui, derrière, a 10 ans d'hormonothérapie. Quand est-ce que tu veux qu'elle ait ses enfants? Genre, the math aren't mapping.
Exactement. Et j'ai posé cette même question. Je me suis dit, mais vous avez fait des études ou pas? Et en fait, tu peux arrêter l'hormonothérapie pendant un moment juste pour tomber enceinte et après, ils vont te remettre dessus. Mais il faut attendre au moins 2 ans et c'est vraiment calculé avec ton équipe médicale. Je sais qu'il y a des femmes qui le font, mais il faut en parler avec son équipe médicale. Mais même ça, en fait, c'est hyper difficile psychologiquement. Déjà, tu te demandes est-ce que tu vas avoir un enfant. Ensuite, tu dois calculer quand est-ce que tu vas avoir l'enfant. Ça prend pas, parce qu'il faut attendre aussi que les règles reviennent parfois, parce que l'hormonothérapie peut aussi arrêter les règles. Là, tu attends ton cycle. Enfin, psychologiquement, c'est toute une mathématique, une gym mentale pour se dire je vais avoir cet enfant. Et après, on retourne dessus. Donc en plus, tu retournes dessus avec un nouveau-né. Alors là,
oula, bon courage. Ouais.
C'est, ouais.
Non, mais pour les hormones, il y a vraiment, pour moi, c'est un désert médical. Enfin, il y a un désintérêt ou une non-volonté de s'adresser à ça. Enfin, même en termes de contraception, il n'y a pas de solution vraiment joyeuse, hein, quoi,
ouais,
tu vois, que tu prends avec. Avec sérénité et sans trop d'effets secondaires.
Exactement, et les hormones, ça régit tout, en fait, dans le corps. Et vraiment, c'est, pour la femme, c'est vraiment un fléau.
Et puis, une méconnaissance, en fait. Parce qu'aujourd'hui, à part le cycle menstruel, en SVT, on voit rien, en fait. On n'a pas d'éducation sur le sujet.
Exactement, et rien que quand je parle, je dis parfois, l'autopalpation devrait être apprise à l'école dès qu'on est réglé. Bah non. Ça, c'est pas possible. On va pas faire toucher les seins aux femmes, aux filles et aux garçons, d'ailleurs, parce que les hommes aussi ont des cancers du sein. Tous les ans, il y a 1% des personnes diagnostiquées sont des hommes. Pourquoi on ferait ça? Parce que c'est hyper important, en fait. Et du coup, il y a vraiment cette non-volonté d'éduquer sur ce côté-là. Et ouais, c'est un désert médical assez flagrant. Et du coup, on tombe dedans quand on est malade.
Ouais. Et donc... Arrêter l'hormonothérapie est ce qui t'a le plus aidé pour ta santé mentale. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mises en place qui t'ont aidé à sortir de cette spirale assez noire?
Oui, tout à fait. Alors moi, c'est le yoga, ça a été ma porte de secours. Et je pense que même arrêter l'hormonothérapie seule, ça n'aurait pas aidé, parce qu'il y avait tout ce qui s'était passé avec le cancer aussi que j'avais besoin de régler. Et le yoga m'a aidé surtout dans la partie réappropriation du corps. Où j'avais vraiment fait cette dissociation. Encore une fois, je dis, on n'avait pas touché à mon sein gauche, mais je pouvais toucher mon sein gauche, j'avais plus du tout de sensation, en fait. J'étais vraiment déconnectée à ce point-là où on pouvait mettre sa main sur mon corps. J'avais plus rien du tout, en fait. C'est devenu juste une enveloppe. Donc, t'avances avec, mais t'as pas du tout de connexion. Et à travers le yoga, à travers... arriver à gérer en tout cas la douleur, et les docteurs aussi m'avaient dit que j'ai eu de gros problèmes avec justement cette prothèse qui est sortie du coup avec mon bras. Ils m'avaient dit que je pourrais plus lever mon bras au-dessus de la tête, pourrais plus faire de plein de choses, et du coup j'arrive à faire des choses que je ne savais même pas faire avant de tomber malade, l'équilibre sur les avant-bras, des choses que je savais pas du tout faire, et surtout cette reconnexion du corps qui m'a fait me dire qu'en fait je suis pas limitée. J'ai pardonné à mon corps, je fais un yoga, en tout cas j'ai fait une formation qui s'appelle un yoga trauma sensible. Donc, c'est un yoga, en fait, qui permet de travailler tes traumatismes qui sont pour les personnes qui ont eu des cancers du sein ou des accouchements difficiles ou qui ont des maladies gynécologiques qui leur font peut-être avoir cette injustice envers leur corps. Et c'est un yoga qui a été développé par un docteur qui a mis ce terme de syndrome de stress post-traumatique. Donc c'est vraiment un yoga qui est doux et qui est plus dans l'acceptation et dans le tu reprends, tu fais ton propre choix quand t'en as envie. Et bien sûr la respiration et la méditation, et le soutien de mes proches et la communication étaient hyper importantes pour moi par rapport à ma santé mentale. Et beaucoup de journaling, chose que je ne croyais pas du tout avant. C'est ce truc, jamais je vais réussir à écrire. Et je mets des petites phrases dans le livre, en fait, pour les personnes justement qui n'arrivent pas à écrire. Et juste à dire, aujourd'hui, je me sens énervée parce que c'est injuste. Et après, tu commences à écrire. Et en fait, c'est des choses comme ça qui m'ont permis de former des phrases que j'arrivais pas à faire, en fait, avant. Et petit à petit, ça a permis de trouver des thèmes, en fait, sur lesquels j'avais besoin de travailler en thérapie, qui petit à petit m'ont permis de mettre des mots sur ce que je ressentais. C'était un travail de longue haleine, et je crois que j'ai fait de la thérapie pendant 3 ans. Donc, voilà.
Comment tu as su que ton travail de thérapie était terminé?
Ma thérapeute m'a dit c'est fini.
Ouais, chouette, pratique.
Ouais, franchement, c'était pratique. J'ai dit ah bon? Elle me dit oui, là, je pense que on est bien. Donc vraiment, si je continue bien sûr à faire toute ma mindfulness et à faire toute cette introspection, et je pense que c'est ce qui m'aide le plus au quotidien, c'est vraiment un travail d'introspection et me dire oula, même par rapport à ce que je fais sur les réseaux sociaux, là en fait, t'es pas médecin, t'as envie d'aider les gens. Mais en fait, c'est trop de charge, rien que pour toi, en fait, de recevoir l'énergie et les témoignages, tu vois, de certaines personnes. Et je me souviens qu'au début, quand je suis allée sur les réseaux, j'ai même des gens qui m'envoyaient leur radio, qui m'envoyaient leurs photos de leur mastectomie. Enfin, et du coup, tu vois ça, tu vois, c'est hyper violent. Et en fait, je me donnais cette autorisation de dire, en fait, non, je peux pas. Je peux pas vous aider, en fait. Et c'est vraiment faire cette introspection, mettre ses limites pour moi aussi, parce que, des fois, je sais que je vois la limite, mais je veux continuer à y aller. Et là, je dis non, en fait, n'y va pas parce que voilà ce qui risque de se passer. J'ai toujours des crises d'angoisse aujourd'hui, mais je sais pourquoi. J'arrive à mettre un mot sur l'angoisse. Là, la semaine dernière, j'avais une grosse crise d'angoisse et je sais comment elle se manifeste. Je prends du temps et je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Ah, OK, c'est à cause de ça. Et j'arrive à le faire. Avant, je ne pouvais pas du tout faire ça et j'allais être dans une spirale, un tourbillon, et j'allais ruminer, mais vraiment toute la journée, dans le noir, dans ma chambre, à me dire que je ne valais rien et que je ne devais pas être en vie, quoi. Donc, il y a un gros jump quand même qui s'est fait. Et du coup, quand on a fini ensemble, je me suis dit, OK, on a bien travaillé. Mmh. Ouais.
Quelles habitudes ont changé dans ta vie? Là, si tu devais nous parler du quotidien de Cynthia à 29 ans et Cynthia maintenant.
Alors, Cynthia maintenant, je pense que ce qui a plus changé, c'est mon rapport aux autres. Et cette empathie notamment dont je parlais, et mon rapport à mes amis, à ma famille, où encore je suis plus maintenant, je pense, dans l'écoute, moins, pas forcément juger, mais à moins donner le conseil si on ne m'a pas demandé, mais plutôt vraiment recevoir ce qu'on me dit, parce que c'est des choses aussi que je pense que j'ai appris pendant le concert, où on venait me rendre visite, puis j'étais fatiguée, mais on voulait quand même me parler, donc je me suis dit, je vais écouter, et puis voilà, et en fait je me suis dit, pas mal d'écouter. Et en fait, je pense que j'ai trouvé plus de valeur dans l'écoute que dans la réponse. Parce que finalement, parfois, on répond juste pour répondre, mais on n'écoute même pas ce qu'on est en train de nous dire, parce qu'on s'est déjà forgé une idée. Et du coup, je pense que c'est ça. Et ça m'a aidé aussi dans ma vie de tous les jours, de ce que je fais aussi sur les réseaux sociaux, de ce que j'ai fait quand j'ai écrit le livre, des décisions que je prends pour moi qui sont plus réfléchies, moins hâtives. Et je pense qu'ils m'aident à faire des choix vraiment plus propice pour moi et pour mon développement personnel. J'hésite pas à couper des réseaux aussi, ça c'est hyper important pour moi, parce qu'en termes
de... Tu le fais à quelle fréquence?
Je le fais au moins tous les 3 mois.
Et tu fais quoi? Tu te fais un week-end off?
Non, la dernière fois je suis partie un mois et demi, tout le monde m'a envoyé des messages.
Ouais, une vraie coupure, quoi.
Ouais, okay. Une vraie coupure où je disais plus rien à qui que ce soit, toute ma communauté qui m'envoie des messages. Je dis, les mecs, en fait, on apprend toujours à se connaître, mais sachez que ça va arriver, en fait. Ouais. Et alors, c'est vrai qu'un mois et demi, c'était un peu long. Normalement, je partais 2 semaines. Partir un week-end, pour moi, c'est pas une coupure. C'est juste, on prend un peu de temps. Allez, voilà. C'est pas une coupure. J'ai vraiment besoin de recharger les batteries et d'arriver à un moment où, en fait, je suis tellement rééquilibrée, j'ai tellement rééquilibré mon rythme circadien que je vais me coucher à 22h et je vais me réveiller à 6h et je vais faire mon yoga. Mon téléphone, ça va être une pensée lointaine et je suis vraiment remise avec moi-même et j'ai besoin d'arriver à ce niveau-là pour me dire, OK, là, ça va, on est bien, on est recentré sur soi.
Et c'est pas difficile quand ton métier, c'est cette présence en ligne. Tu vois, il y a de plus en plus de personnes qui sont à leur compte et du coup, finalement, leur valeur dépend un peu du travail qu'elles fournissent. Mmh. Et du coup, il y a souvent cette injonction à sans cesse donner plus, quoi.
Ben, j'en ai parlé justement récemment en story quand je parlais à une autre créatrice de contenu qui disait wow, « j'ai trop de contrats, j'arrive plus à honorer ». Je lui dis « mais fais un break ». Elle me dit « mais si je fais un break, ma communauté va m'en vouloir ». Je lui dis « écoute, si ta communauté t'en veut, t'as peut-être pas la bonne communauté. Et si la marque t'en veut, c'est peut-être pas une marque avec qui t'as envie de travailler ». Et moi, je me mets vraiment pas cette pression où je pense que j'ai un détachement en fait par rapport à ça, où je me dis « ma priorité, en fait, c'est moi ». Ma priorité, c'est... J'adore être sur les réseaux, mais en fait, les réseaux, c'est pas la vie, en fait. C'est une partie de ma vie, et j'en suis très reconnaissante, et c'est beaucoup de travail, je pense que voilà, tu le sais très bien. Mais en fait, je sais que c'est pas là, aujourd'hui, où je vais trouver la plupart de mon épanouissement. Et dans mes stories, voilà, je parle souvent de ma nièce, mes neveux, ma famille. Je montre souvent, bah, voilà, je suis très attachée à nos coutumes, à choses comme ça, et je les partage avec ma communauté, parce que oui, j'adore vous donner des conseils, mais en fait, c'est pas parce que vous allez faire la dernière... c'était quoi l'autre jour que j'ai fait ? C'est des pastilles pour la gorge, pour arrêter de tousser, que vous allez être bien tout d'un coup. En fait, c'est un tout. C'est vraiment c'est la communauté, c'est la santé mentale, c'est l'alimentation, c'est le sommeil, c'est l'équilibre physique. Et moi, j'ai besoin de sortir pour pouvoir vous proposer ce qu'il y a de mieux. Et je dis toujours, j'ai pas envie d'être la personne qui est mal chaussée.
Ouais, non, mais j'allais dire, en fait, tu ne fais finalement qu'appliquer ce que tu dis, quoi. Donc ça fait du bien.
C'est... Oui, exactement. Et ils sont compréhensifs, écoute. Mm. Donc voilà.
J'ai quelques dernières questions pour toi. Mm. Si tu avais une ressource, que ce soit un livre, un film, un podcast, qui t'a particulièrement touché et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi ?
C'est Vibrate Higher Daily par Lala Delia, qui est un livre pour moi qui a bien résonné parce que, toujours avec ce rapport à l'introspection, prendre du temps pour moi, à faire les choses pour moi. Et si je fais les choses pour moi, en fait, j'arriverai à les faire pour les autres.
Ok, hyper intéressant. Je mettrai ça dans les notes. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un sur InPower, qui est-ce que tu aimerais entendre ?
Je pense Karine Giok, Turam.
Doesn't ring a bell.
M6, elle présentait le JT d'M6 pendant 20 ans. Et là, elle est sur 66 minutes.
Ah ouais, ok. Ouais. Okay.
Et je le dis parce que j'ai fait 66 minutes ce matin avec elle et on a eu une très bonne conversation où aussi elle est passée à côté de la mort très récemment, il y a un an si je ne dis pas de bêtises. Et cette année, en fait, elle avait décidé d'arrêter le JT d'M6 pour se consacrer à sa passion. Et je n'ai pas envie de raconter son histoire parce que je pense que c'est une bonne histoire qu'elle a à raconter. Et je pense qu'elle peut être très inspirante.
Ok, écoute, tu as attisé ma curiosité. Avant de te poser la question signature du podcast, j'ai envie de te demander si là, je te donnais un petit carnet avec un petit crayon et que tu pouvais écrire une phrase pour Cynthia, je dirais peut-être le jour de son diagnostic. Qu'est-ce que tu lui dirais ?
Je lui dirais... Bon, alors moi, je parle beaucoup en anglais, je ne sais pas si j'ai le droit.
Okay. Alors, il y a beaucoup de haine envers le franglais. Mais si c'est que de l'anglais, ça va.
Si c'est que de l'anglais,
ça va. Et puis, je traduirais.
Je lui dirais vraiment, t'es là, t'es en bonne santé, tout va bien se passer, fais-toi confiance et repose-toi sur ton entourage. Vraiment, repose-toi sur ton entourage et fais-leur confiance.
Ok. Mmh. Maintenant, je vais te poser du coup la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
Alors, pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est vraiment faire ses choix en son âme et conscience. C'est vraiment prendre le choix qui te reflète le mieux. Et moi, j'ai souvent vécu par rapport à ce que je pensais qu'on voulait de moi. Donc, pas par rapport à ce qu'on me disait d'être, mais par rapport à ce que je le pensais vraiment. Et en fait, j'ai... Pendant longtemps, je pense, vécu dans ma propre ombre, en fait. J'étais ma propre marionnette. Et pour moi, ça a été ça, reprendre le pouvoir, c'est faire mes choix en mon âme et conscience, en sachant que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ce matin et que je le fais sans force, en fait, que je le fais vraiment aligné avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie d'être et sans état d'âme.
Merci beaucoup, Cynthia. C'était hyper intéressant.
Merci beaucoup.
Vraiment,
merci à toi.
J'ai appris beaucoup de choses et puis je suis ravie qu'on ait pu faire, je l'espère, un peu de sensibilisation. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ton nouveau livre, où est-ce qu'on les redirige ?
Alors, si vous voulez en savoir plus sur mon nouveau livre qui sortira fin octobre, il peut être précommandé sur la FNAC principalement et sur By Cynthiaka sur Instagram, et j'ai aussi mon site internet cynthiaka.com.
Ok, voilà. Bah, je mettrai toutes ces infos. Tout ça dans les notes du podcast. Parfait. Et puis j'espère à très vite.
À très vite, merci beaucoup Louise.
Merci au vrai d'être arrivé au bout de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours, alors n'hésitez pas à nous taguer en story, @bycynthiaka et @mybetterself, et envoyer un petit message à Cynthia si le podcast vous a plu, je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 250 épisodes, peut-être même 300 maintenant, sont disponibles gratuitement sur InPower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même, et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.